sur Radio Liberté à 91.3 FM, la radio sans vue, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste Victoria Hugo, l'émission faite par des trans, pour les trans et pour tout le monde. Bonsoir Marlène, bonsoir Vincent,
bonsoir Tom,
bisous à Denise, Denise qui nous écoute, toujours fidèle au poste. Alors la première annonce Tom concerne le CGL.
Alors on disait le CGL.
Le CGL.
Évidemment, j'allais en sortir tout le bazar, donc je vais tout de suite plutôt enchaîner.
Non, merci, Tom. Non, je ne veux pas prendre le bazar.
Vas-y, c'est bon. Mais t'avais pas quelque chose à...
Ah non, 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 je ne veux pas que tu sois prendre le bazar, c'est tout.
Ok. Alors, donc, le CGL fait une exposition photo. Nathalie Dumas fera ça donc du 12 mai au 28 juin, un vernissage le 13 mai. Donc, c'est un vendredi. Et c'est à partir de 18h30, donc le CGL 3 rue Keller dans le 11e arrondissement. Donc le titre c'est sur le sexe des anges. Donc Nathalie Dumas est artiste photographe spécialisée dans le portrait et nu masculin, une nudité esthétique et sensuelle qui ne sombre jamais dans la vulgarité. Le sexe des anges est un mélange d'érotisme et de spiritualité. Donc si vous voulez découvrir cet artiste, c'est à partir du 12 mai. Voilà. C'était très vite.
Alors, une news, Tom.
Oui, il y a une petite news. Alors, donc, je suis tombé sur une information sur France 2 qu'un garçon, enfin une personne trans change de sexe donc et devient un garçon. Et c'est une personne qui est enseignant en maternelle et l'école a mis en place, comment dire, une information, un système d'information pour les parents et les enfants. Mmh. Et apparemment, ça se passe bien.
Je peux te dire qu'apparemment, ça se passe bien, mais en plus, c'est bien les parents des élèves et
de tout le monde. Enfin, justement, je voulais continuer là-dessus. Les informations que j'ai de ce sujet ne viennent pas de France 2, mais d'un article de journal, effectivement, dans lequel il était marqué qu'un des parents d'élèves avait dit si l'école ne se sépare pas de cet enseignement, je retire mon enfant. Voilà, donc il y a une discussion. Voilà ce que j'ai entendu.
Et nous rappelons que, exactement, l'information a été diffusée par un mail anonyme qui a intervenu la presse. Donc, la vient dans le meilleur du monde.
Génial. Ah, d'accord.
Alors, donc effectivement, il y avait cette fait un petit peu le tour des journaux. Alors, on va faire le point ce soir aussi sur les associations. Il y a beaucoup d'associations qui se créent actuellement en France. Et trans, bien sûr, les associations trans. Et donc le paysage trans se diversifie énormément. Alors, sont apparus tout récemment. Alors, l'association Transact, qui est à 7 qui était jusqu'à maintenant le collectif, vient de se créer en association. Donc, l'association, vous pouvez la contacter sur le forum e-trans, qui structure une association assez large en termes de géographique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas limité à une seule ville. Parallèlement, vient d'être créé, on le sait depuis peu, donc plus ou moins piloté par l'association STS Support Transgenre Strasbourg, dont Alexandra Mirel et Cornelia Schneider. C'est pas une bombe qui explose, c'est le tome qui tombe. Donc STS, donc pilote une association qui est à Tours, qui s'appelle Entraide Transgenre Tours ETT. Alors le contact c'est Samantha Paul. Elle a cette association, un site internet donc, qui est http://.
On mettra toutes les infos sur le site.
Oui, ETT37.STS.org.
Surtout que là, c'est, ça ne va pas diffuser jusqu'à
là. Non, non, non. et vous avez évidemment des informations sur le site de Patatrance, patatrance.free.fr. Alors, ça, là, peut-être donner l'adresse.
patatrance.fr.
C'est sur ce site que toute la liste des associations est mise à jour. Le site de Karine Emoud. Oui. D'ailleurs, Karine Emoud vient de créer donc une association qui s'appelle Sans Contrefaçon. Alors, cette association est relativement aussi, est présente dans plusieurs villes. Vous pouvez contacter donc par ce site sans contrefaçon.fr, Karine Spirella et Spinera et Motton qui sont sont à Marseille. Sophie Roland et Caroline Milo qui sont à Toulouse. Daniel Giron qui est à Brest. Et Camille pour le salaire. Donc je pense que c'est la personne qui fait les ateliers trans. Dernière association qui vient de se créer, c'est l'association Mutatis Mutandis, dont le contact s'est extendé à Marie et Nathalie. Cette association, donc, vient de se créer à Bordeaux. Voilà, donc, quatre associations qui viennent de se créer dans le monde qui vient de s'écouler de toute façon.
Termine la liste des associations, après j'aurai une question.
Ah, mais là, j'ai dit, je parle uniquement des nouvelles associations qui viennent de se créer.
Et sinon, enfin, tu vois l'émergence de nouvelles associations, mais quelles sont les revendications? Parce que je sais qu'à la base, Transact, c'était juste. Juste. Pour ça, mais. C'est juste une question de char pour la Pride, donc si elle se crée là maintenant, est-ce qu'il y a des revendications déjà mises en place?
Alors, moi, si je connais pas plus que ça, tout ce que je peux dire, c'est que l'association Transact, qui a d'abord fonctionné à partir d'un forum, puis d'un collectif, ça je verrai, a vraiment envie de se structurer en association. Donc, comme c'est un groupe de personnes qui sont relativement, dans le Grand Sud, on va dire, dans le très Grand Sud, dans la moitié Sud de la France, je pense que c'est que de toute façon, même si on sort du simple char pour la marque des cafés de Montpellier, de toute façon c'est une excellente chose qui est une association qui regroupe les personnes, que les personnes se visibilisent un peu partout. C'est d'abord une fonction d'entraide et visibilité.
Merci.
D'accord.
Et si on est un petit peu s'organiser.
Oui, si on est s'organiser, des fois, tout le monde n'est pas les gâtes.
Évidemment,
on n'est pas les gâtes.
Il y a plusieurs modes d'action, mais chacun est utile.
Voilà, alors donc, c'était ce point qui était une partie importante à faire. La troisième news de ce soir, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, ça fait quelques temps qu'on en parle, c'est une loi en Belgique. Qui était plus ou moins dans les tiroirs, dans les cartons des parlementaires belges depuis quelque temps. Et là, l'information, je l'ai eue ce matin. Il semble que le projet de loi soit déposé au Parlement belge et l'association belge de. Non, je ne sais pas comment elle s'appelle, autre association qui est francophone, a nous alerté en disant attention, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement protocolaire, enfin, c'est quasiment du protocole français.
Genre Cordy, quoi.
Genre Cordy. Donc l'idée qui circule, c'est quand même de faire une pétition des associations trans françaises.
Attends, je ne sais pas si j'ai rien compris. Il y a un projet de loi qui consiste en quoi?
Qui consiste à protocoler les parcours trans en Belgique, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un parcours protocolaire, mais et comme en France, largement contourné par les personnes qui font comme en France leur parcours personnel.
Oui, parce que c'est pas écrit, et là ça va être écrit.
C'est tout le danger du lieu, qui va figer, qui va...
Ça serait pas trop gênant, au contraire, mais c'est pas le cas.
Mais il y a un truc qui me gêne dans cette loi, c'est que quand j'étais au congrès de la SPIDA, il y avait une journaliste belge assez connue dans le pays flamand, qui était sur une chaîne artistique apparemment, et qui a fait un très bon boulot qui s'appelle Gender Planet, qui est une série de reportages, hélas en flamand, donc je n'ai pas pu tout comprendre, et qui n'a pas du tout parlé de cette loi en fait. À aucun moment, ni aucun juriste, ni
c'est
vrai que c'est pas un serpent, mais soit c'est un peu comme le vent sur le nez qui apparaît, parce qu'il y a une histoire de loi à un moment donné, et après on n'a plus envie de parler.
De toute façon, rien n'empêche de bien se renseigner, d'aller un peu plus loin dans l'idée.
Oui, alors l'idée c'est quand même que si cette information se vérifie, en même temps qu'elle soit exacte, c'est éventuellement de structurer autour d'une pétition française, enfin des associations françaises, et on voit qu'il y en a de plus en plus. Pour donner un petit coup de pouce aux belges, parce que de toute façon c'est cette occasion-là de faire créer un mouvement plus large que le mouvement français.
Oui, et puis au-delà de donner un coup de main aux belges, c'est aussi quelque part donner un coup de main, parce qu'en fait si ça passe par la Belgique, c'est juste à côté de la France, et on peut gager que ça arrivera en France, si jamais c'est effectivement une loi protocolaire qui est vraiment très restrictive.
Donc, il faut vraiment être davantage radical et faire une pétition, on appelle au boycott de toute façon cette loi. Et... Je pense qu'ils sont beaucoup plus simples, dans la mesure où en France, les protocoles sont déjà mis en place, alors qu'on veut les boycotter, enfin, on veut les gars veulent boycotter déjà les protocoles, et donc prendre le problème en amont en Belgique et éviter que ça se passe.
Mmh. Reste à, en fait,
c'est parce que le problème, c'est qu'on cite toujours les Belges comme étant des exemples dans leur fonctionnement du point de vue par rapport au système français, et là du coup on ne pourra plus continuer à les citer s'ils se mettent à avoir un truc aussi arriéré que ça, c'est-à-dire que du coup on se retrouvera piégés nous aussi dans notre articulation, quoi.
Donc je pense qu'il faudrait aussi collaborer avec les associations espagnoles, puisqu'en Espagne il y a un projet de loi qui est en gestation, donc il faudrait qu'il y ait un mouvement général pour bloquer ce genre de loi en fait, qui risquerait le problème protocolaire, parce que si ça commence en Belgique, effectivement ça passera en France, après de France ça passera en Catalogne, juste voisine, en fait, puisque la Catalogne c'est quand même en Espagne le gros, 71% des mouvements trans. Donc, je pense qu'il faudrait faire un mouvement général, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien avoir la teneur de ce document, de ce projet.
Peut-être aussi Itran, ce soir, tu seras tout.
D'accord, bon. Mais j'aimerais bien traduire en catalan pour voir si c'est pas moyen de tout ça, si vraiment c'est fou.
Non. Alors, on va peut-être arrêter sur ce sujet-là. Voilà, alors nous avons fait un feedback sur une réunion importante qui s'est tenue au ministère de la Justice.
Au ministère de la Justice, qui a reçu la commission de France d'Act Up Paris, qui avait déjà fait la demande de rendez-vous il y a déjà quelques temps.
Presque 2 mois, je crois.
Oui, quasiment. Au sujet des expertises, parce que comme on le sait tous, pour bénéficier d'un changement d'état civil, on est contraint à présenter 3 certificats, donc un certificat d'un endocrino, un chirurgien et un psychiatre. Et de façon très aléatoire, en fonction des tribunaux, vous avez ou non une expertise à la clé. Ce qui implique évidemment des dépenses en plus et tout ce qu'il y a en termes de traumatisme psychologique et physique.
Précisons que les expertises peuvent coûter jusqu'à 500 euros pour être expertise encore aujourd'hui.
1500 euros. Donc voilà. Et il se trouve que le ministère a renvoyé un courrier à ECOP. Simplement que la loi, aucune loi n'a mal.
Oui, la jurisprudence de la Cour de cassation était claire.
Que aucune expertise ne devrait être préconisée dans la mesure où il y avait déjà 3 certificats annulés. Donc, merci Marine de me laisser terminer. Donc, ça veut dire que si on vous propose une expertise, on ne vous la propose pas, on vous l'impose, mais ce n'est pas dans leur droit. Et qu'il faut donc, vous êtes en mesure de la contester. Évidemment, ça implique davantage, une somme d'argent en plus, mais c'est dans votre droit de pouvoir la contester suivant ce texte de loi que l'on pourra diffuser sur le site et sur les forums.
Alors, moi, je voulais savoir si vous avez posé la question de savoir s'il y avait moyen qu'il y ait une circulaire, en fait, qui soit un petit peu envoyée à tous les.
Alors, oui, c'est évident qu'on a posé la question. Dans un premier temps, on a rencontré, il faut quand même dire, le directeur des affaires civiles et du sceau sont quand même quelqu'un qui était relativement haut placé au ministère de la Justice. Et voilà, je pense que ça n'a pas été non plus. L'entretien a été assez intéressant. Effectivement, on a demandé une circulaire, sachant que si c'est pour appliquer, faire appliquer une méthode à des juges, ça suggère le recours à la circulaire, ce n'est pas forcément ce que le ministère préconise vraiment pour ce genre de choses. En revanche, il est important de savoir que le ministère veut faire de la pédagogie vis-à-vis des tribunaux, donc nous avons notamment demandé à renvoyer les
c'est très bien que leur marge de manœuvre n'est pas très grande parce qu'ils ne peuvent pas imposer l'application de la loi dans la mesure où ils ne sont pas derrière le fait de tous les juges, ni les procureurs et les tribunaux en soi. Mais moi je pense que c'est un bon plan, enfin je le sens bien. Mais après en termes de conséquences, je ne sais pas si ça implique.
Tom Dumoren.
Alors le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de loi, il y a une jurisprudence et que les tribunaux font un peu ce qu'ils veulent. Donc il leur faut entre guillemets une sorte de marche à suivre sans que ce soit un mode d'emploi, c'est-à-dire juste en disant à partir du moment où les gens fournissent des certificats médicaux, ils n'apprendront rien de plus de l'expertise, donc inutile de faire dépenser de l'argent, du temps, etc. Et les tribunaux ont autre chose à faire que de s'occuper et de s'encombrer avec des affaires comme ça, quoi.
Par ailleurs, les certificats médicaux ont une force probante. Il faut dire qu'ils sont des actes sociaux privés et que logiquement ils ne peuvent faire une expertise que si vraiment ils ont suffisamment de preuves. Et par ailleurs, il y a l'article 146 et l'article 146 et 147 du Code de procédure civile qui disposent que la preuve, l'instruction doit être menée de manière pertinente et à des coûts modérés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une expertise si tous les documents sont à table.
Mais enfin, on est d'accord, Marlène, sauf qu'il parte d'un principe de suspicion de fraude, donc notamment des comptes certificats, et bon, dans la mesure où il part de ce principe-là, et en plus de la difficulté du juge à stipuler si oui ou non cette personne est franche, quand bien même il y a des certificats, je pense que les choses sont claires, ils veulent se protéger derrière, non pas une expertise, mais enfin si, une expertise qui serait de l'ordre du ponctuel, parce que c'est stabilisé. Et plus systématique.
Oui, mais à ce moment-là, je pense que c'est quand même évident, ce serait, je ne sais pas si tu as vu que pénal, par exemple, si par exemple, je m'amuse à mentir, par exemple, le docteur Bernstein, qui est expert, il raconte n'importe quoi, et qui me fait un certificat, par exemple. Donc, ce sera faux, parce qu'en fait, c'est une expertise qui pourrait contredire si j'ai menti sur toute la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera, même si c'est pas moi qui l'ai rédigé, ce sera quand même faux. Enfin, ce sera contenu. Donc, le taux en écriture publique, par exemple, dans ce cas-là, c'est toujours quand même de 5 ans de prison. Ça, c'est courant. Donc, c'est trop lourd pour le faire.
Je vais juste dire que si un mec qui est expert ne se rend pas compte que tu lui racontes des tracts, c'est qu'il ne
c'est pas un expert.
C'est pas un expert, voilà. Donc, normalement.
On va
justement
passer le morceau. Préciser quand même, préciser qu'on ne peut pas aller faire demander. Est-ce que la justice, le ministre de la justice, donne des instructions à tous les juges de France et de Navarre? On était allé pour alerter le ministère de la justice, l'administration centrale sur ces questions-là, et pas du tout pour demander à ce que les instructions soient données. Les juges sont libres de décider une expertise qu'ils ont envie. Et voilà, donc c'était surtout pour vraiment faire évoluer la question, cette question des expertises, et je pense que ça peut la faire évoluer.
Le principal argumentaire avancé était combien de refus il y a eu, de rejets, suite à une expertise, alors que trois certificats ont été amenés, zéro, mais c'est tout très bien.
Ils ne savent pas,
une statistique, eux, de plus en plus, ne savent pas non plus quel est le pourcentage des tribunaux qui mettent en place des expertises et qu'il y a d'autres pourcentages qui mettent pas en place des expertises. Hein.
Oh, ben c'est bon.
Au final, avec l'histoire d'expertise, je pense que bon, ça ne m'étonne pas qu'il y ait plus de rejet, parce que les conséquences seraient trop lourdes aussi pour l'intéresser. Et qu'il y ait un rejet en produisant les trois certificats suite à une contre-expertise, suite à l'expertise, on va dire que l'intéressé est fraudé. Donc,
tu prends vraiment le sens, là, Marine. Le problème, c'est pourquoi, dans ce cas, il y a une deuxième expertise alors que les certificats sont donnés.
Oui. C'est déjà une expertise. C'est
déjà une expertise. Au sens de la Cour de cassation, l'expertise est faite par la production de certificats médicaux. C'est à peu près ce que le ministère de la Justice écrit. Et je veux dire, ça, c'est une bonne nouvelle que le cabinet de Perben écrive à une association comme la Commission de l'Acte de Paris que l'expertise est faite avec trois certificats médicaux.
Vous avez un texte écrit.
Absolument.
Alors il faut le publier, le diffuser et que les avocats s'en servent.
Ça a été dit, ça va être diffusé, cette lettre sera diffusée à l'ensemble des personnes trans concernées, des avocats et tout.
Mais d'ailleurs, on incite les personnes trans à les rebalancer, au tribunal.
Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, parce qu'on va faire une pause musicale. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter, David?